qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Et quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir et bonne année à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de ce Temps du Débat et de France Culture. Entrons ensemble dans un Temps du Débat spécial du vendredi, vous le savez, une conversation mondiale consacrée ce soir à la culture de la nuit. À l'ordre du jour ce soir, la culture de la nuit est-elle une culture? Au lendemain de ce réveillon si particulier de la Saint-Sylvestre et de notre nuit sous couvre-feu, nous nous demanderons ce soir comment la crise de la Covid-19 a bouleversé ce monde en pleine transformation. Longtemps combattu par les ligues de morale comme par les autorités policières, le monde de la nuit était devenu depuis 2 ou 3 décennies un lieu majeur de la liberté et de la création, portant à la fois des nouvelles formes artistiques et des combats contre les discriminations. La ville de Berlin, par exemple, avait bénéficié d'un tourisme nocturne et festif sans pareil sur le continent européen. Mais depuis 9 mois maintenant, discothèques, salles de concert et bars de nuit sont à l'arrêt dans de nombreux pays. Un arrêt qui favorise bien sûr les fêtes clandestines, comme hier soir et dans la nuit au sud de Rennes ou encore à Marseille ou en Seine-et-Marne. Les images d'une soirée de réveillon à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont de quoi d'ailleurs nous rendre jaloux celles et ceux qui ont dû se contenter d'une mini-soirée en appartement. Par ailleurs, les promoteurs du monde de la nuit sont choqués par le désintérêt du ministère de la Culture pour leurs activités, alors qu'ils qualifient justement ce lieu de la nuit de ring politique et démocratique souvent. Avec nous pour en parler depuis Montréal, Will Stroh, professeur à l'université McGill, pionnier des Night Studies. Il nous expliquera ce que sont les Night Studies et il nous a fourni un texte inédit, tout à fait intéressant et très passionnant pour le site de France Culture à la page de la Conversation Mondiale. Vous pourrez le lire quand vous voudrez sur le site de France Culture. Et également pour dialoguer avec lui dans cette Conversation Mondiale, Arnaud Rebottini, compositeur et musicien. Arnaud Rebottini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous reconnaissez cette musique puisque vous en êtes le compositeur?
Oui, tout à fait. C'est le premier morceau que j'ai créé pendant le premier confinement.
Voilà, il s'appelle Minimize Contact Between People, donc, et le disque en entier, et vous n'êtes pas là simplement tout seul d'ailleurs pour y travailler, à ce disque s'appelle This is a Quarantine, donc, et c'est un sur le label Innocent, qui est un label de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et avec vous, pour dialoguer donc ce soir, Will Stroh, bonsoir. Vous m'entendez, Will Stroh?
Oui, très bien, vous m'entendez?
Parfaitement bien. Vous êtes donc à Montréal, où vous enseignez à l'université McGill et vous travaillez sur les Night Studies. Que sont les Night Studies pour nos auditeurs qui ne les connaîtraient pas?
Mais d'un côté, c'est ridicule de dire qu'il y a quelque chose de nouvel qui s'appelle les Night Studies. Évidemment, depuis des siècles, les philosophes, les poètes, les psychologues, ont étudié la nuit. Ce qui a changé depuis une vingtaine d'années, je dirais, c'est que d'abord, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la nuit. On a, depuis 20 ans, 4-5 livres, même sur Paris, la nuit au 19e siècle, des livres formidables. Mais ce que les anthropologues, les historiennes, les spécialistes de la littérature qui travaillent sur la nuit, ils commencent à se parler entre eux. Il y a comme une communauté qui se mais il y a des gens comme moi qui, avant de m'identifier aux Night Studies, j'ai travaillé sur les scènes culturelles, sur les boîtes de nuit. Je faisais un peu, je dirais, des Night Studies sans le savoir. Et c'est au moment où les objets sur lesquels on travaille, on reconnaît, bon, c'est de la nuit. Je vais chercher d'autres chercheurs qui travaillent sur la nuit, qu'on peut dire qu'il y a vraiment un champ. Et maintenant, depuis 2-3 ans, on a des colloques internationaux, on a des revues, on a des numéros spéciaux, on a des livres, etc. Alors, c'est pour ça, pour moi, les Night Studies.
Et pour vous, Arnaud Rebottini, vous imaginiez que le domaine dans lequel vous œuvrez depuis si longtemps, donc en tant que compositeur, qu'interprète, que DJ, comme on disait parfois au tout début de votre carrière, et vous l'êtes encore d'ailleurs, eh bien, et tout cela, ça faisait partie d'un univers de recherche qui pouvait s'appeler les Night Studies.
Bon, je l'ai pas deviné, mais ça ne m'étonne pas tellement. C'est quand même le phénomène, la nuit, c'est quand même un phénomène social important depuis très longtemps maintenant, peut-être même depuis plus longtemps qu'on l'imagine.
Et donc, ça vous paraît logique qu'on s'y intéresse sociologiquement, historiquement, géographiquement, puisqu'il y a des géographes comme Luc Wadinski, que connaît bien Will Stroh, qui travaillent sur ces questions des univers de la nuit, des lieux de la nuit dans des cités, dans des villes par exemple, mais ça pourrait être aussi à la campagne quand on va faire une soirée rave dans un hangar, comme c'était le cas au sud de Rennes par exemple.
Disons que oui, on peut voir la nuit comme le lieu d'émergence d'énormément de cultures populaires, et je pense pas que à la techno. Tout ce qui a précédé la musique électronique comme on l'entend aujourd'hui est souvent issu de la nuit et des fêtes, de lieux festifs. Je pense, très facilement, on pense au hip-hop qui est né des block parties, le block party qui est lui-même l'héritier des sound systems jamaïcains. Et le reggae est lié énormément au phénomène de regroupement, de fête. Et puis on peut remonter encore avant, le rock, la country, le blues. C'est des musiques qui sont souvent liées à la danse, à la fête et au regroupement. Et à la nuit.
Ouais. Will Stroh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est ce que vous expliquez dans un numéro en particulier d'une revue qui s'appelle L'Observatoire, qui est une revue justement sur les cultures, la culture. Vous expliquez dans un article que, en prenant le cas de Montréal, qui est votre ville en l'occurrence, eh bien, on peut, par exemple, noter que pendant très longtemps, ce lieu de la nuit, cet univers de la nuit était, disons, géré par à la fois les ligues de vertu, les ligues de la morale, et de l'autre côté par forces administratives de la police qui considéraient évidemment que c'était là, à ce moment-là, la nuit, que pouvaient se dérouler, disons, les crimes et les délits les plus importants. Ça n'est plus le cas, ça n'a plus été le cas pendant un certain temps, puisque justement, comme le dit Arnaud Rebottini, eh bien, il y a eu une sorte d'émergence depuis une vingtaine ou une trentaine d'années d'un monde de la nuit qui se voulait lieu d'expérimentation culturelle, lieu de création de formes, etc., etc., Will Stroh.
Oui, mais on peut dire que, oui, je suis d'accord avec l'autre invité, que la nuit a toujours, les villes aiment ça parler en quoi ils sont innovateurs, innovatrices, mais en fait, la nuit a toujours été un lieu d'innovation. C'est là que se fabriquent les identités sexuelles, par exemple, et surtout les formes culturelles. On parle beaucoup ces jours-ci de la gouvernance de la nuit. Bon, on a des maires de nuit, des tsars de la nuit, des ambassadeurs de la nuit, mais en fait, la nuit a toujours été gouvernée, mais elle a été gouvernée par la police, par les forces de l'ordre. Alors, ce qu'on cherche maintenant, c'est pas ajouter une gouvernance qui a toujours existé, mais ajouter une gouvernance qui reconnaît, enfin, les avantages d'avoir une nuit ouverte, sécure, etc.
Alors, oui, vous disiez dans cet article, Will Stroh, que les politiques régissant la musique étaient rarement des politiques au sens des politiques culturelles au sens explicite du terme, et que la musique était plutôt prise au piège dans des politiques relatives à l'octroi des licences aux bars, aux clubs, au règlement des limites d'âge, à la limitation du niveau de bruit, etc., etc., et il avait fallu beaucoup de temps pour que ce milieu de la musique devienne un milieu culturel, la musique de nuit en particulier, devienne un milieu culturel en tant que tel, Will Stroh.
Exactement. Et je sais qu'au Québec et au Canada et aux États-Unis en général, en fait, c'est l'histoire de la réglementation de l'alcool qui a été le facteur le plus important. Je dirais même dans l'émergence de certains styles de musique, la loi qui dit tu codes dans un bar, tu peux pas danser. Si les clients dansent, tu vas perdre ta licence. Alors ça a un effet sur les genres musicaux qui se jouent dans les endroits. Bien sûr, avec le techno, avec les rêves et tout ça. On y ajoute pas juste la question de l'alcool, mais du bruit, de la présence des gens dans la rue la nuit. Mais c'est surtout à travers l'alcool, en fait, que la nuit a été gouvernée pendant très longtemps.
C'est amusant, Arnaud Rebottini, parce que ce que l'on voit depuis ce second confinement, mais c'était vrai aussi dans le premier, c'est que un certain nombre de fêtes clandestines qui ne sont pas organisées a priori par les organisateurs classiques des fêtes ou des discothèques, eh bien, ont lieu justement dans des bars, parce que les bars justement permettent des bars clandestins permettent à la fois de boire de l'alcool et de danser en même temps. C'est assez étrange que ça revienne à ce que disait Will Stroh, d'une sorte de longue histoire de la prohibition.
Bah, ça semble, oui, naturel que déjà ce soit des endroits discrets. Après, il y a eu beaucoup d'événements aussi dans les bois, en extérieur, qui rappellent les toutes premières rêves et qui d'ailleurs doivent donner un petit goût excitant à la jeunesse de participer à ce genre d'événement qui est interdit, comme l'était la techno ou les rassemblements de musique électronique au début des années 90.
Oui, au moment où vous commenciez à œuvrer vous-même, Arnaud Rebottini, et ça c'est très intéressant parce que certains disent d'ailleurs c'est comme une sorte de replongée dans la techno des débuts, dans cet univers qui était le nôtre, de vouloir forcer les lieux, y arriver, de danser pendant très longtemps et sur de la musique électronique. Et on a l'impression effectivement qu'une partie de ce monde de la nuit, eh bien, se dit, tout compte fait, c'est un retour aux origines, comme une sorte de replongée dans les origines de cette musique.
Bon, on pouvait déjà constater cette envie avant le Covid. Il y avait énormément de fêtes autour de Paris, dans des endroits un peu atypiques. C'était beaucoup plus à la mode et beaucoup plus tendance, je veux dire ça comme ça, que d'aller en club. Donc il y avait cette envie du côté hors les murs, du côté de retrouver l'origine des rêves, 20 ans plus tard, par des gens qui n'ont pas connu ces interdits et la naissance du mouvement. Donc il y a un parfum particulier.
Voilà. Dans This is a Quarantine, donc, que vous avez publié récemment sur le label Innocent, vous faites aussi des reprises qui rappellent que vous avez une vision aussi historique, pourrait-on dire, de ce milieu de la musique électronique, puisque là, on entend sous notre discussion, on entend Transorica Express, évidemment, qui est un des morceaux majeurs de Kraftwerk dans les années 70 ou au début des années 80.
C'est deuxième partie des années 70. C'est même un morceau majeur de l'histoire de la musique, puisqu'il est pour moi le ce qui va fonder et résumer, ou qui est l'essence de tout ce qui va suivre, de beaucoup de choses qui vont suivre, c'est-à-dire en premier temps le mouvement New Wave. Et tout ce qui est synth-pop, des groupes comme Depeche Mode vont énormément s'inspirer de Kraftwerk, et puis très rapidement le hip-hop, le breakdance, le début du rap, puisque un des premiers tubes de rap c'est Planet Rock d'Afrika Bambaataa, qui est une sorte de reprise, enfin qui reprend le thème de Transorica Express et le rythme, et puis en même temps qui est la pierre angulaire de la techno, puisque c'est une référence commune à quasiment tous les artistes de musique électronique actuelle.
Pour vous, c'est évident, cette musique que vous pratiquez, Arnaud Rebottini, c'est une culture en soi, ça fait partie de la culture, contrairement à ce que semble dire le ministère de la Culture.
Après, c'est une culture populaire, c'est-à-dire que... En plus, c'est très compliqué parce que on est à la fois dans des lieux de fête et à la fois dans des lieux où on rencontre des propositions artistiques. C'est comme ça un peu dans tous les mouvements musicaux. Et c'est vrai que la musique électronique souffre d'une très mauvaise image auprès de du gouvernement.
Oui, auprès des autorités en général, parce que ça peut être les maires, les patrons de collectivités territoriales ou le gouvernement. Will Stroh, c'est la même chose de l'autre côté de l'Atlantique. Vous qui avez travaillé sur Montréal, par exemple, et sur cette ville de Montréal où vous habitez, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de retour de bâton, c'est-à-dire après cette promotion d'une culture festive, et je parlais tout à l'heure de Berlin, de cette idée qu'on puisse faire un tourisme qui soit un tourisme lié justement à la nuit, lié à la culture de la nuit à Berlin. Eh bien, aujourd'hui, toutes les boîtes de Berlin sont fermées et même le Kit Kat Club, qui est une des grandes boîtes de Berlin, a été transformé en centre de test Covid.
Oui. mais moi, ce qui me donne le prétexte d'être optimiste, disons, c'est que on parle beaucoup maintenant de comment, par exemple, on va réinventer le centre-ville à Montréal si les gens reviennent pas travailler dans les bureaux, etc. Mais moi, je vois beaucoup, beaucoup d'espace. Quand j'étais étudiant, le centre-ville de Montréal était un des centres des bars punk et new wave. Mm-hmm. Ce n'est plus le cas depuis 20 ans parce que maintenant c'est le détail, le commerce au détail. Mais
c'est gentrifié aussi. Ça s'est gentrifié aussi, j'imagine, non?
Oui, ça s'est gentrifié. Puis on a eu le quartier des spectacles qui est pour une culture plus touristique, plus subventionnée. Alors j'ai l'espoir peut-être que il va y avoir beaucoup, beaucoup d'endroits maintenant où une nouvelle culture underground pourrait s'installer. Parce que le problème à Montréal, depuis 10 ans, c'est où trouver des endroits pour organiser des raves et comment convaincre la ville de laisser émerger et laisser fleurir ces endroits-là qui sont vraiment les lieux d'émergence de nouvelles cultures. Alors je pense que pour plusieurs raisons, le moment actuel, triste qu'il soit, nous donne des possibilités pour réinventer la culture, oui. Non seulement de la musique, mais d'une culture underground.
Oui, d'autant que vous expliquez bien que les acteurs qui étaient les acteurs qui contestaient ce monde de la nuit traditionnellement, pourrait-on dire, et je parlais des ligues de vertu ou des ligues morales ou les autorités, ouais, policières, ont changé aujourd'hui parce que ceux qui demandent à ce que ce monde de la nuit soit moins brillant, ça peut être simplement des riverains qui ont acheté très cher dans des centres-villes des très beaux lofts, de très beaux appartements, qui ne veulent pas que ces centres-villes les empêchent de dormir, par exemple. C'est une autre façon d'envisager la culture de la nuit, et ce ne sont pas les mêmes acteurs que les premiers acteurs. Ils n'utilisent pas des conditions morales à l'exercice de la musique ou de l'ouverture de ces lieux de fête de nuit.
Non, ça c'est un très bon point. En fait, c'est des forces économiques qui mènent à la gentrification, qui mènent à l'auto-organisation des riverains qui viennent d'acheter des condos. Ils veulent pas. Ils sont arrivés aller au centre-ville pour une vie festive, mais 5 ans plus tard,
ils veulent dormir.
Entendre le bruit. alors, ça va. Oui, c'est pas il y a 56 ans, 60 ans à Montréal, c'était l'Église catholique qui avait beaucoup de pouvoir. C'était les organisations pour les défenses de la moralité. Ce n'est plus le cas vraiment. En fait, c'est soit des forces économiques, soit souvent le racisme, d'autres préjugés institutionnalisés qui limitent la vie nocturne plus que les campagnes de morale, les forces de moralité.
Mmh. Et vous avez cette impression aussi, Arne Rebotini, que, disons, les contestations du monde de la nuit ont changé par rapport au moment où vous aviez commencé. S'il y avait cette dimension morale vis-à-vis des rave parties, vis-à-vis de la consommation de drogue, par exemple, etc., dans les années 80 et au début des années 90, et qu'aujourd'hui, ce sont d'autres raisons qui poussent justement les acteurs de la nuit à être marginalisés ou contestés par des urbains.
Ouais, après, je pense que nous, à Paris, le problème, il est un peu différent. On a quand même une maire qui soutient plutôt la nuit. Il y a même un Frédéric Ocard qui est un poste de conseil. Enfin, je ne sais pas quel est son titre exact, mais je ne sais plus. Voilà, qui est délégué à la nuit, voilà, auprès d'Anne Hidalgo. Donc, c'est plutôt au niveau du préfet de police. Et effectivement, voilà, l'idée, c'est le contrôle de la consommation de drogue. Voilà, c'est politique finalement comme différence entre ceux qui veulent favoriser, qui voient un élan culturel et qu'une ville, une métropole moderne se doit d'avoir une vie nocturne active et créative. Et par contre, le préfet de police, lui, veut éviter tous les débordements et contrôler la prise de drogue. Après, c'est des combats qui sont très vieux parce que Bistrot parlait de la législation sur l'alcool. Ouais. J'ai, des fois, par provocation, je dis on pourrait écrire une histoire de la musique par rapport à l'histoire des drogues. C'est-à-dire que les drogues qui sont à la mode vont changer, ou qui arrivent peuvent changer les styles musicaux. Alors souvent, c'est lié à des phénomènes sociologiques.
Bien sûr.
Mais le rock'n'roll est arrivé, c'est quand des technos américains ont commencé à prendre du speed et qu'ils ont joué de la country à 160 BPM, enfin beaucoup plus rapidement que qu'était le hillbilly, le style précédent. Enfin voilà. Puis après tout le rock psyché qui est très lié aux drogues hallucinogènes, le disco. Enfin voilà, je vais pas faire toute l'histoire là, mais donc c'est vrai qu'il y a toujours ce truc comme ça un peu sulfureux autour de la nuit et de la musique. Pop en général.
Et pendant que vous composiez cet album donc, qui vient de sortir, Arnaud Rebotini, This is the Quarantine, il y avait évidemment le débat autour d'une drogue, enfin plutôt d'un médicament, une drogue au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire la chloroquine. C'était le temps du débat, une émission spéciale du vendredi, la conversation mondiale. Il faut lire le texte, il faut aller lire le texte sur le site de France Culture que nous a confié Will Stroh, qui est un de nos deux invités, avec Arnaud Rebotini, qui vient de composer justement cet album dans lequel on a ce morceau Chloroquine qu'on vient d'entendre. Will Stroh, dans ce texte que vous nous avez confié, vous dites, et c'était un joli texte parce qu'il nous explique comment la vision de la nuit a changé selon vous. Pendant la première période, au printemps dernier, au moment de la première crise de la Covid, pendant l'été, et puis à nouveau depuis cette rentrée, qu'est-ce qui a changé justement ? En quoi la Covid a-t-elle changé tout cela ? Est-ce que c'est, comme le dit le Conseil d'État, par exemple, en disant que les activités physiques de la danse et de la difficulté de garantir le port du masque et la distanciation sociale dans un contexte festif justifient la fermeture de tous ces lieux où l'on danse, où on boit, où on chante et où on s'amuse ?
Oui, mais pour moi, la façon dont j'ai vécu la pandémie, c'est, oui, au mois de mars, avril, il y avait comme la découverte de tout ce qui pourrait se faire en ligne. Alors, j'ai passé des heures à écouter des sept DJ en ligne, d'assister à des colloques universitaires en Espagne, des concerts en ligne au Brésil. Pendant un certain temps, l'idée de comment réinventer la culture pour qu'elle soit en ligne, c'était la question. Après ça, est arrivé au moins à Montréal, mais je pense que plus généralement aussi, une autre question qui est de comment réinventer nos villes pour qu'on puisse occuper les villes, on peut expérimenter la culture dans un contexte de pandémie. Alors, les grandes questions n'étaient plus comment mettre l'art de performance en ligne, par exemple, mais de comment organiser les roues pour qu'un musicien pourrait jouer pendant qu'une famille mange dans la roue bien distanciée.
En terrasse.
Oui, tout ça. Alors, la question urbaine est revenue à un niveau assez significatif, à mon avis. Alors, et depuis, c'est la question de comment on va réorganiser la vie nocturne dans nos villes qui me paraît essentielle. Et c'est une question qui continue à se poser. Et maintenant, on se demande ça va être quoi l'après-COVID pour la vie nocturne. Et oui, c'est ça qui nous préoccupe ces jours-ci.
Arnaud Rebotini, vous pratiquez quoi comme type de musique ces temps-ci? Parce que vous avez cru, vous, à cette possibilité pendant le cœur de l'été de revenir sur scène, de pratiquer votre métier avant le deuxième confinement que nous avons connu. Qu'est-ce que c'est le métier justement que vous pratiquez et en quoi est-il, selon vous, profondément touché par justement cette crise de la Covid?
Ce qui nous touche, bon, c'est évidemment l'interdiction, la fermeture des salles de concert, et donc de ne pas pouvoir pratiquer une partie de mon activité, puisque comme je suis compositeur, je peux toujours sortir des disques, mais le principal de nos revenus étant venant de la scène, c'est extrêmement problématique. On avait justement commencé à réorganiser des salles assises où je faisais des concerts plus ambiants, justement, là, comme cette histoire de législation sur l'alcool, qui ont changé ma façon de me présenter sur scène et de la musique que je peux proposer. Puis là, comme tout a été refermé, tout a été réannulé ou repoussé au mois de février, qui là, à mon avis, on a peu de chance que ça rouvre au mois de février, donc ça va être annulé à nouveau. Donc maintenant, il faut attendre, parce que de toute façon, le streaming ne représentera jamais une alternative au fait d'aller dans un endroit, de vivre un moment ensemble. C'est même pas uniquement, je pense, à la musique de club. Aller à un concert, aller à l'opéra, ou un concert de rock, c'est pas du tout la même chose que de regarder le DVD à la maison. Une expérience collective, il y a une expérience de même sonore, acoustique. Si on veut voir de la musique classique, là, qui est, voilà, c'est la musique des instruments en direct, sans amplification, la sensation des basses, du lieu et de la puissance du son est essentielle dans l'expérience du concert de rock ou de techno. Donc, le streaming, c'est juste, pour patienter et puis pour montrer notre présence et faire plaisir aux gens.
C'est une sorte d'ersatz de ce qu'on peut découvrir justement dans ces soirées que vous composez vous-même, Arnaud Rebettini, et dans lesquelles vous faites vos performances. Et puis il y a aussi, comme le disaient certains des membres de la nuit, justement, il y a aussi cette longueur, parce que effectivement, on a beaucoup parlé depuis ce matin de cette grande soirée qui se déroule au sud de Rennes et qui doit continuer encore. C'est aussi d'autres rythmes que les rythmes normaux de la vie, d'une certaine façon. La nuit s'étale sur le jour et même peut s'étaler sur la nuit du lendemain et du surlendemain, ce qui donne effectivement un tout autre aspect à cette pratique du concert, à cette pratique de la musique en public avec un public nombreux.
C'est une des particularités de la musique électronique ces dernières années. De proposer ces événements très longs où les gens se relaient. Souvent, c'est pas forcément les mêmes personnes qui font du vendredi au dimanche matin. Mais c'est vrai que le côté des sept musiques en continu, comme ça, qui plonge les gens dans une sorte d'hypnose, dans son salon, c'est très compliqué à obtenir.
Westro, qu'est-ce qui explique, selon vous, peut-être est-ce anthropologique, peut-être est-ce aussi un héritage historique, que encore aujourd'hui, comme l'explique votre camarade Luc Dazinski, que nous avons déjà interrogé dans cette émission, eh bien, les autorités ont toujours peur de la nuit, de la fête et des jeunes, tout ça, ça s'accompagne les uns des autres. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ?
Mais évidemment, il y a une longue histoire de ça. Les religieux au temps médiéval, s'ils n'avaient pas peur eux-mêmes de la nuit, ils voulaient que leur client, disons, avait peur de la nuit parce que montrer que la nuit faisait peur pourrait faire en sorte que les gens vont se réconforter auprès des églises et tout ça. Après, c'est surtout d'abord l'idée que dans une vie morale, pourquoi on ne sortirait pas la nuit? Alors, si vous travaillez, si vous avez une famille comme il faut, vous n'avez aucune raison de sortir la nuit. Alors, ceux qui sont dans les roues la nuit, c'est parce qu'ils mènent pas la vie normale conforme qu'on veut. Alors c'est ça. Après ou plus tard, c'est peut-être plus que être dehors la nuit exprime une dissidence sexuelle, dissidence politique, dissidence raciale. Alors on a toujours peur ou on soupçon toujours ceux qui sont dans la ville la nuit à l'extérieur de poursuivre des projets qui sont contre la moralité, contre la l'égalité,
Et ça explique, normalité. Ça explique pourquoi il y a toujours cette méfiance. Luc Zazinski parle, il faudrait faire confiance à la nuit de la part des élus, par exemple, de la part des autorités, et que la valeur culturelle, par exemple, des clubs soit toujours pas reconnue comme telle. Non. Ou extra.
Mais c'est ça. C'est tout récemment qu'on a commencé à reconnaître que les clubs à Berlin, par exemple, ou les cafés-concerts à Paris, ont une valeur de patrimoine culturel, national ou municipal, au même mesure que les statues, l'architecture et tout ça. Alors, je pense que ça commence à changer, peut-être plus lentement qu'on aurait voulu, mais il y a plusieurs pays maintenant où la culture de la nuit est reconnue comme vraiment faisant partie des traditions culturelles les plus, peut-être les plus importantes même. Alors, ça me donne d'espoir.
Arnaud Rebottini, on écoute un des morceaux de cet album que vous venez de sortir qui s'appelle This is a Quarantine, Digital Lockdown. Ça vous a inspiré justement tout ce discours, puisque tous les titres, beaucoup des titres de votre album sont tirés de ce qu'on a entendu, le minimum de contact entre les personnes, la question de la façon dont on a été renfermé avec nos écrans, avec ce titre Digital Lockdown. Ça vous a beaucoup inspiré justement en tant qu'homme de la nuit et homme des fêtes en extérieur avec des milliers de personnes, de se voir comme ça totalement renfermé.
Oui, ben en tous les cas, c'est au-delà de la nuit, c'était la perte du lien avec le public et les autres artistes aussi. Et c'est pour ça que toute la démarche des remix qui accompagne les 8 titres que j'ai fait, donc qui sortaient chaque semaine et accompagnaient le remix au fur et à mesure de faire chaque semaine du titre de la semaine précédente. Pour moi, c'était important d'avoir ce lien et de garder ce lien et avec le public et avec les autres artistes et d'essayer de créer une sorte de, pas de communauté, mais de dynamique. Et au-delà du pur moment, enfin, c'était pas la question de la nuit qui m'ennuyait, c'était la question de la privation de liberté et de mouvement et de l'arrêt des activités. Là, pour le coup, on était un peu tous, vu que le premier confinement était beaucoup plus dur, tout le monde était un peu logé à la même enseigne. Il n'y avait que les usines, l'agroalimentaire et les supermarchés qui pouvaient travailler.
Et ce qu'on comprend bien, Will Stroh, en écoutant Arnaud Rebottini et également en vous lisant, c'est que, comme le dit Vincent Carry, donc, qui est le concepteur des grandes nuits de Lyon, justement, électronique, il dit, la nuit est un espace de culture et d'effervescence démocratique. Il y a un sens politique à la nuit et ne pas le reconnaître de la part des autorités, que ce soit d'ailleurs en France ou dans beaucoup d'autres pays, c'est ne pas reconnaître justement qu'il y a là quelque chose qui fait changer les mœurs, qui fait changer qui fait évoluer la société et que c'est en soi, effectivement, ça fait partie de la culture pleinement.
Oui, exactement. Et je pense que vous y avez fait référence en tout début de cette émission sur le fait que de plus en plus les mouvements de contestation ont lieu la nuit. Les grands défilés à midi sur les grandes routes des grandes villes ont été remplacés par les communautés de nuit qui se forment, que ce soit à Istanbul, à Paris, etc. Alors, cette reconnaissance-là de non seulement la force politique de la nuit, mais la nuit comme territoire public, politique, où pourraient se former de nouvelles façons d'être ensemble, d'innover, de trouver des solidarités. Tout ça, pour moi, c'est très excitant ces jours-ci. Bon, c'est un autre aspect de la nuit. La nuit n'est pas que le côté festif, évidemment. C'est un territoire, un lieu politique très important.
Quelle langue parle-t-on la nuit? Parce que vous assistez là-dessus sur votre travail de Montréal. On parle l'anglais, on parle le français. Il y a très peu, enfin, il y a beaucoup moins de locuteurs en anglais qu'en français à Montréal, et néanmoins on va peut-être parler une langue qui est une sorte de mélange des deux. C'est intéressant, la langue de la nuit.
Oui, mais je pourrais passer des heures à parler de le rapport de la langue à Montréal et parce que mes étudiants ils disent mais on sait ça c'est un bar anglophone, ça c'est un bar francophone, mais évidemment c'est pas écrit sur la porte que c'est un bar anglophone ou francophone, mais les gens se trouvent dans leur propre communauté linguistique ou il y a d'autres bars où en fait c'est très 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 mixte. Non, c'est fascinant. La langue est toujours fascinante à Montréal, mais la question de la langue, mais la langue, la nuit, il y a encore de la recherche à faire.
Oui, et ça, c'est ce qu'on pouvait se dire aussi, par exemple, à Nero Bottini, avec cette capitale mondiale qui était devenue de la nuit, qui était devenue Berlin, par exemple. Mm-hmm. On y venait du monde entier, Nero Bottini.
Oui, d'ailleurs, moi, beaucoup de gens qui ont remixé les titres de Six Quarantaine habitent à Berlin. Donc, ça reste la ville où les gens... Ben, c'est toujours été une ville de nuit, une ville de subversion, hein, c'est pas à la techno. D'ailleurs, il y a les anciens Berlinois regrettent un peu cette électronisation de la ville, mm-hmm. Qui perd aussi un peu son côté, enfin pour eux, le côté punk, le côté... Ce qui, sur le fait que la nuit est créative, c'est aussi parce qu'elle est subversive, et c'est aussi pour ça qu'elle gêne ou qu'elle fait peur aux autorités morales.
Mmh. Se souvient effectivement que David Bowie, Iggy Pop et bien d'autres s'y réfugient en plein milieu des années 80 et que c'est là aussi où des gens qui avaient grandi dans d'autres villes ont reforgé complètement leur répertoire musical, par exemple en se rendant à Berlin alors que le mur n'était pas encore tombé, par exemple à Nuremberg Bottini.
Bah, puis c'est même le mur qui devait être un attrait, on était aux portes de ce qui représentait le mal pour l'Occident, en fait. Je pense que ils étaient tout près de l'enfer, et je pense que dans l'image et dans l'inconscient de l'époque, ça avait sûrement une importance, cette localisation, au-delà de la ville en elle-même.
Will Stroh.
Et j'ajouterais juste que j'ai des amis qui ont vécu à Berlin de l'Est dans les années 80. Ils disaient que tu pourrais trouver tout ce que tu voulais la nuit à Berlin de l'Est. C'était pas la ville fermée, conforme comme on pense, mais en fait il y avait des underground, des communautés sexuelles dissidentes qui était un peu toléré, disons, pour les autorités. Je m'excuse, je vous ai interrompu.
Non, mais c'est très bien, Will Stroh. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui, cette nuit? Alors, la Covid, on l'a bien compris, menace considérablement cette culture de la nuit, mais on peut espérer que ça redémarre. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez optimiste. Ce qui vous rend peut-être moins optimiste, c'est justement la gentrification des centres-villes, oui. La gentrification des villes. Il y a un mouvement qui s'appelle Music Cities. C'est quoi, Music Cities?
Mais c'est pour que les villes se donnent la marque de Music City. Ils se vendent pour leur aux touristes et peut-être aux résidences pour leur qualité musicale. Et on peut dire que ça c'est une commercialisation de la musique. Mm-hmm. On peut dire que c'est une reconnaissance enfin du rôle de la musique. Comme tout ce qui concerne le développement culturel, la reconnaissance culturelle de la nuit, il y a une ambiguïté parce qu'on ne veut pas que ça soit commodifié, comme on dit en anglais au moins, mais on veut la reconnaissance parce que ceux qui ont travaillé dans les domaines de la musique la nuit pendant des décennies, ils ont besoin d'être reconnaissants. Ils ont besoin de ce que leurs endroits où ils travaillent soient peut-être protégés contre les gentrifications, contre la hausse des loyers, etc.
Oui, et Arnaud Rebottini, est-ce que vous êtes plus pessimiste que ne l'est Will Stroh qui dit tout compte fait que la nuit en a connu d'autres et que cette culture de la nuit survivra?
Oui, je pense qu'on ne peut pas empêcher la jeunesse d'aller... de sortir, de faire certains excès, duquel vont naître des idées nouvelles ou des attitudes nouvelles. Et puis je pense aussi qu'il y a un aspect important pour les villes d'avoir cette plus-value de la nuit, de la fête et de ce qui peut s'y produire.
Merci à vous, Arnaud Rebottini, d'avoir été avec nous pour cette conversation mondiale en dialogue avec Will Stroh. Will Stroh, on peut vous lire dans le numéro de l'hiver 2019 de l'Observatoire, une revue des politiques culturelles sur les cultures de la nuit. Et on peut vous écouter, évidemment, Arnaud Rebottini, avec votre dernier album, donc, où vous avez travaillé avec bien d'autres DJ. This is a Quarantine, sorti sur le label Innocent. On écoute Two Women on the Assembly Line. C'était C'était le premier temps du débat de cette année 2021. Chloé Cambrelin, Rémi Bas, Hugo Boursier et Imane Gilles. Sofiane Aktib était avec nous à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation.